Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h, pas vraiment, 17h57. Bonsoir à toutes et à tous. Au programme du pédalo ce soir, pas besoin de pédaler. Le pédalo est sur batterie électrique. Enfin, pas besoin de pédaler. Peut-être que si l'électricité est devenue un bien rare et précieux, et comme le rappelle le gouvernement, en ces termes coup de poing, en ces termes choc, chaque geste compte. Or, la centrale nucléaire de Zaporijjia, à l'heure où chaque geste compte, elle, Zaporijjia, donc la plus grosse centrale nucléaire européenne, est à l'arrêt, car entre deux feux, bombardée tel un vulgaire objectif militaire. On parle donc d'énergie ce soir dans le pédalo avec l'association Sortir du nucléaire 49. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Isabelle de Villars, habituée de l'émission Dernière Séance sur le Centre FM. Elle viendra ce soir nous parler de Cinoche, évidemment, un petit récap de ses derniers visionnages aux 400 coups et évidemment un dernier hommage à notre cher Jean-Luc Godard. Le pédalo fissionne ce soir, alors ajustez votre gilet de sauvetage. Le pédalo, c'est parti.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Avec nous dans les studios ce soir, Bernard Cottier et Alain Guillotot. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Je vais vous laisser bien parler dans les micros. Vous êtes tous les deux membres de l'association Sortir du nucléaire 49. Le nucléaire est au cœur de toutes les tensions aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde. À l'heure du réchauffement climatique, cette source d'énergie est considérée par beaucoup comme la solution au réchauffement climatique, car n'émettant pas ou très peu de gaz à effet de serre, contrairement au pétrole et au charbon. Problème, et j'enfonce une porte ouverte, le nucléaire est dangereux. Vous diffusez demain avec votre association au centre Jean Carmet à Murérigny un film de Gaël Lépingle, L'été nucléaire. Avant d'en parler, petit extrait de la bande-annonce.
Quoi?
Je te rends pas compte, Victor, ils sont en train de parler d'un accident nucléaire, là.
Les pouvoirs publics rappellent l'obligation de se confiner aux personnes n'ayant pas pu évacuer.
En fait, il y a une fuite. Il faut vraiment que tu te confines, d'accord?
Pourquoi ça craint l'orage?
Bah, la pluie, ça dépose les particules radioactives qu'il y a dans les nuages par terre.
Je vais le chercher.
L'explosion qu'on a entendue, vous pensez que c'était...
C'était plus fort que le tonnerre.
Voilà, un film sorti donc en 2022. Est-ce que vous l'avez vu, vous, déjà, ce film, ou est-ce que vous allez le découvrir en même temps que les gens qui vont venir au centre Jean Carmet à Murérigny?
En fait, on va le découvrir, comme la plupart des gens.
Également, je le découvrirai.
Et vous avez décidé de montrer un film sans l'avoir vu au préalable?
Oui, oui, ça peut paraître bizarre, mais en fait, au vu des critiques par rapport à tout ce qui est dans la presse spécialisée, on s'est dit on n'a pas forcément trop de risque entre guillemets, à le diffuser. France Inter est élogiant de compliments, Alternative Économique aussi, Mediapart, voilà.
Le réalisateur parle dans une interview accordée au magazine Max Centre en mars 2022 d'un film qui questionne les rapports humains plutôt que d'un film catastrophe. Pourtant, vous, en tant qu'association militante, vous vous le réappropriez comme une sorte de film catastrophe alors que le réalisateur lui s'en défend.
En fait, il est question de sûreté nucléaire et on verra en parlant de la centrale de Zaporijjia que le principal risque qui existe est au niveau humain. Et donc c'est un facteur qui nous paraît extrêmement important. On aura l'occasion d'en reparler demain soir après le film, on aura un débat.
Qu'est-ce que vous appelez le principal risque humain? Là, en l'occurrence, on parle des interactions sociales dans ce film entre les gens qui se retrouvent confinés à l'intérieur d'une maison. Est-ce que c'est ça le risque humain de l'accident nucléaire?
Eh bien, quand on a à gérer une énergie très très intense comme le nucléaire, il faut pouvoir assurer une fiabilité aux installations. Et ça fait partie du facteur humain que d'assurer cette fiabilité, hein, puisque en ce moment, je peux vous dire que les techniciens et les ingénieurs ukrainiens sont sous la pression des Russes et ils travaillent dans des conditions très difficiles. Ils sont peu nombreux d'ailleurs. Et donc pour nous, ce facteur humain, on le retrouve aussi dans la population qui ne sait pas réagir quand il le faut et comme il faut.
Est-ce que vous trouvez donc que ce film peut-être permet de sensibiliser à comment réagir, tel une sorte de documentaire ou en tout cas d'approche avant la catastrophe ?
Il n'y a pas de recette miracle, justement, et c'est bien ce qui nous préoccupe. Et on en parlera demain encore, mais en fait, l'idéal, c'est de ne pas s'exposer à ce genre de danger. Et il ne s'agit pas de faire peur à la population, mais d'être averti des risques qu'on encourt.
Ce film était censé sortir courant 2019 et pourtant sa sortie a été repoussée car c'est un film qui traite de l'isolement et du confinement, plus que de l'accident nucléaire. L'accident nucléaire serait un prétexte pour parler de cette notion de confinement et de sorte d'entre-soi. Est-ce que ça c'est des choses...
Prétexte, je dirais que c'est un petit peu fort de café. Il aurait pu prendre n'importe quel autre quel thème, mais là je pense qu'au vu de l'actualité actuelle, le prétexte, comme vous dites, sur le nucléaire n'est pas un prétexte, c'est l'actualité.
Donc, en l'occurrence, c'est lui qui dit ça.
D'accord. Mais je pense qu'en fait, l'été nucléaire, tel qu'il est... Alors, l'été, ça peut paraître très estival, mais là, ici, on est sur un véritable enjeu de choix de société. Alors, effectivement, là, on est sur la problématique de la sécurité. Donc, il y a le confinement. Donc, ça fait un parallèle avec la Covid. Mais on n'est pas là pour parler du confinement. On est là pour parler de la problématique liée au nucléaire. Et non pas forcément du film, car le film, demain, je vous dis... On invite tous vos auditeurs à venir demain à 20h sur le centre Jean Carmet à Mur-et-Ligny pour découvrir le film et après en parler.
Vous avez également une exposition avec des paroles d'enfants de Fukushima. Où est-ce que vous avez récupéré tous ces témoignages ? Est-ce que c'est des témoignages propres à l'association ? Vous avez effectué ce travail de collecte ?
Alors en fait, c'est l'association ACRO, donc association donc, pour l'analyse de la radioactivité dans l'Ouest, qui a accueilli des artistes japonaises qui ont donc créé des dessins à partir des paroles d'enfants de la région de Fukushima. Et ça nous a semblé important de montrer cette expo. On aurait souhaité accueillir davantage d'écoles à l'expo. Je pense que c'est le temps de la rentrée scolaire.
C'est la problématique actuelle.
C'était pas sans doute la bonne période. Mais on a déjà des propositions pour faire circuler cette expo dans les écoles et collèges.
En fait, il y a 12 panneaux. 12 panneaux de témoignages d'enfants.
Et que disent ces témoignages d'enfants ?
Eh bien, ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont contraints. Ils ne peuvent pas boire l'eau qu'ils voudraient boire quand ils veulent. Et ils sont condamnés à utiliser certains aliments et pas d'autres. Et donc, pour eux, c'est une vie qui est un peu bizarre et cassée.
En signature du mail que vous avez envoyé avec toutes les informations et tout le communiqué de presse autour de la projection de ce film, vous avez indiqué deux chiffres. Les énergies renouvelables ne génèrent aucun gaz à effet de serre, alors que le nucléaire, lui, en émet 60 grammes par kilowattheure. Alors, je suis allé regarder. À l'heure de l'urgence à réduire les gaz à effet de serre, le pétrole, lui, émet lors de sa combustion 778 grammes de CO2, donc quasiment 13 fois plus de gaz à effet de serre que le nucléaire. Et le charbon émet, lui, 1058 grammes de CO2, donc 18 fois plus que le nucléaire. Comment expliquer aujourd'hui que le nucléaire n'est pas la source d'énergie miracle dont on aurait besoin pour endiguer les émissions de gaz à effet de serre ?
Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que pour construire une centrale nucléaire, on utilise énormément de matériaux et d'énergie grise, donc qui est à chaque fois vont demander des transformations, vont demander de l'énergie. Il va falloir aller chercher l'uranium dans les mines, il va falloir le processer multiples reprises. Et donc tout ça, ça consomme de l'énergie. Donc cette énergie, elle vient en partie d'énergie fossile. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que...
Ceci étant dit, les panneaux solaires également sont faits à partir d'énergie fossile.
Eh bien, dans certains pays, comme la Chine, actuellement, oui. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que petit à petit, les énergies renouvelables vont monter en puissance et vont permettre de s'auto-gérer en énergie. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de zéro gramme, donc pour les renouvelables. Ce n'est pas le cas actuellement, mais ce qu'on souhaite, c'est que ça le devienne. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que le nucléaire génère des déchets qu'il va falloir gérer sur des centaines d'années, des milliers d'années, et donc que ça va consommer de l'énergie qu'actuellement on ne prend pas en compte.
C'est ça, hein, ouais.
Et les chiffres qui sont cités souvent, hein, de 4 grammes de CO2 par kilowattheure nucléaire, sont totalement faux.
Idem par rapport au prix du kilowattheure. le kilowattheure, les 500 millions ou 1 milliard d'euros pour le coût des déchets n'est pas inclus dans le prix du kilowattheure.
Mais j'ai l'impression que ce sont des chiffres là, ce sont cette bataille de chiffres éternels autour de la question du nucléaire, qui finalement ne répondent pas à l'urgence climatique actuelle. C'est-à-dire, là c'est du court terme, là c'est du long terme. Bon, finalement, nous ce qu'on cherche, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans un cas, on a besoin de quelque chose d'urgent maintenant, en l'occurrence le nucléaire, continuer à le faire fonctionner, alors que dans d'autres cas, on se dit, il faut produire plus d'éoliennes, évidemment, les critiques sont entendables, mais j'ai l'impression que la solution à court terme, qui est la solution dont on aurait besoin maintenant, serait effectivement le nucléaire.
C'est totalement faux. Actuellement, ce dont on a besoin, c'est de faire des économies d'énergie, avant tout.
Dont on a besoin est de réduire les gaz à émissions à effet de serre.
Oui, mais en économisant notamment l'énergie, y compris l'énergie électrique. Et actuellement, je peux vous dire que durant tout l'été, là, la France a importé énormément d'énergie électrique d'Allemagne et d'Espagne, des pays qui ont développé des énergies renouvelables beaucoup plus que nous. La France est très en retard.
Et qui ont relancé les centrales à charbon suite à la fermeture.
Qui sont en train de les fermer, les centrales à charbon, petit à petit.
Il
y a une mauvaise information qui circule et je profite de cette antenne pour dire qu'il faut arrêter de colporter des informations qui sont fausses. On utilise encore beaucoup trop de charbon en Allemagne, mais les Allemands ont commencé à fermer leurs centrales à charbon.
En l'occurrence, ils en ont rouvert une, là, récemment.
Est-ce qu'il faut mieux avoir une mauvaise grippe qu'un bon choléra? Je prends l'exemple du charbon, c'était temporaire. Ils ont arrêté le nucléaire. Voilà.
Je pense que... Moi, je suis venu pour parler de la centrale de Zaporijjia parce qu'elle me semble très emblématique de l'impasse dans laquelle s'est fourvoyé le nucléaire.
Alors, parlons-en. Donc, justement, la centrale de Zaporijjia en Ukraine est au cœur du conflit opposant l'Ukraine aux Russes. Est-ce que cet événement serait suffisant, selon vous, pour que les gouvernements se disent « Bon, allez, stop, on arrête avec le nucléaire » ou est-ce qu'il en faut encore plus ?
Sans doute, et on ne le souhaite pas, hein, mais un événement comme Tchernobyl a quand même posé beaucoup de questions et a fait qu'en Allemagne, la majorité de la population s'est dit il faut petit à petit sortir de cette énergie qui est dangereuse. Pourquoi en France on ne le fait pas? C'est tout simplement parce qu'en France, on a lavé le cerveau des Français. On a dit le nucléaire c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement. Et en parallèle, on leur a dit surtout consommer de l'énergie électrique parce qu'on en a plein. Et on recueille, et je peux vous dire, pour avoir lutté contre un projet de stockage de déchets radioactifs dans le Segréen, tout près d'ici, on recueille les errements de décennies, donc d'intoxication nucléaire. Et je pense que je ne souhaite pas d'accident à Zaporijjia. Malheureusement, ça pourrait arriver. On est à moins de 3000 km de Zaporijjia ici. Les nuages ne vont pas s'arrêter aux frontières, contrairement à ce qu'on nous a dit. Et malheureusement, on pourrait être impacté par une fusion de cœurs de réacteurs à Zaporijjia, notamment liée au stress du personnel là-bas, qui n'est pas en état de bien conduire les installations nucléaires.
Sans compter les 20 000 m3 de déchets hautement radioactifs qui sont entreposés à Tchernobyl et Zaporijjia.
Zaporijjia donc est aujourd'hui sur toutes les bouches. Depuis tout à l'heure, vous dites le stress des travailleurs là-bas, des techniciens et des techniciennes qui y sont. Où est-ce que vous avez eu ces informations?
Eh bien, ce sont des journalistes qui ont rencontré des techniciens, qui ont rapporté donc cet état de choses. Certains, d'ailleurs, ont même été interdits d'entrer dans la centrale à cause des forces militaires russes. Donc, ce qui fait que les équipes là-bas gèrent la centrale avec le minimum de personnes, ce qui rend encore la situation plus dangereuse.
De quoi est-ce que Zaporijjia est-il symptomatique, selon vous? Est-ce qu'on est autour d'une guerre globale de l'énergie qui englobe aujourd'hui le nucléaire?
Vas-y.
Je pense que Zaporijjia, donc, c'est comme l'a dit un scientifique là, du CNRS, c'est un avatar de l'industrie nucléaire mondiale, puisqu'on a tout misé sur une technologie, donc les réacteurs à eau légère pressurisée, qui concentrent énormément d'énergie dans très peu d'espace. Et donc, il faut absolument refroidir ces machines. Ce sont des chaudières, en fait, qui sont faites pour faire bouillir de l'eau, pour le dire simplement.
Des cocottes minutes.
Oui, on va dire ça comme ça. Eh bien, en fait, ces machines, il faut absolument assurer leur refroidissement en permanence, même quand le réacteur ne débite pas de vapeur. Et donc, ça veut dire qu'il faut de l'énergie électrique. Ça se compte en dizaines de mégawatts. et donc pour assurer le refroidissement, le fonctionnement correct de la centrale, même quand elle est arrêtée. Et en plus, à Zaporijjia, dans les bâtiments réacteurs, vous avez à chaque fois une piscine où sont entreposés des déchets radioactifs qu'il faut aussi refroidir. Et donc on arrive à une impasse technologique lorsque les conditions donc, de fonctionnement sereines, c'est-à-dire lorsque la sécurité n'est plus assurée, eh bien la sûreté en pâtit. Et c'est ça que l'on peut craindre.
Il y a une opposition toujours qui est faite entre sûreté et sécurité nucléaire. Je suppose que c'est des termes que vous avez déjà entendus être en opposition.
En fait, la sécurité, ça correspond, si vous voulez, aux conditions de fonctionnement extérieures à la centrale. On assure que personne ne rentre dans les bâtiments réacteurs. On s'assure que personne n'entre dans les salles de commande, etc. La sûreté, c'est autre chose. La sûreté, c'est lié au principe même de fonctionnement de la centrale. Est-ce que les processus physiques qui sont utilisés sont sûrs en cas de défaillance d'un système? Est-ce qu'il est capable de s'autocorriger ou pas? C'est ça la sûreté. Mais cette sûreté, elle est aussi gérée par les hommes. Il n'y a pas que les ordinateurs qui gèrent le contrôle-commande de la centrale. Il y a les hommes. Et donc, si ces hommes sont donc en but à des pressions énormes, parce que vous avez des occupants russes qui ne les laissent pas travailler correctement, eh bien, c'est pas sûr qu'ils puissent assurer la sûreté à 100%.
Sans compter tout ce qui peut être défaut suite à l'érosion de certaines pièces.
En plus.
Pourquoi est-ce que, je vais vous poser une question assez simple, auquel je vais vous demander une réponse rapide. Pourquoi est-ce que vous voulez sortir du nucléaire?
Alors comme disent, alors je ne sais plus qui disait ça, mais je trouvais ça très intéressant, l'énergie nucléaire est une énergie sale, donc elle ne peut pas être propre. Voilà, tout est dit.
Explicité?
Explicité, quand vous prenez une barre d'uranium, quand elle a été travaillée, vous allez la mettre où? Vous allez l'entreposer quelque part pour salir l'écologie, l'environnement et les populations à venir. Car aujourd'hui, on se dit fort pour traiter tout ce qui est déchets radioactifs, mais en fait, il n'y a aucune solution actuellement.
En fait, pour aller un peu plus loin, entre une barre d'uranium qui rentre dans un réacteur et celle qui sort, il y a un niveau de radioactivité qui a été multiplié au moins par 1000. Donc ça veut dire qu'on va laisser à nos descendants des produits qui n'existaient pas à l'état naturel et donc qui seront radioactifs pendant des milliers d'années. Et donc on ne peut pas dire que l'énergie nucléaire soit propre, c'est faux. Et on ne peut pas opposer donc cette énergie à celle des renouvelables parce que même avec le prétexte du climat, eh bien, le nucléaire va laisser une planète sale.
Donc la radioactivité, la dangerosité des déchets, donc tout ça évidemment a des conséquences sur l'environnement et pourrait avoir des conséquences sur les vies humaines. Donc hors micro, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas des vérités qui s'affrontaient, mais une vérité cachée. Je vais quand même donner des chiffres que vous allez sûrement contester, mais je vais quand même les donner. La revue SMT d'Elweiser a établi en 2014 les chiffres de la mortalité liée à différentes sources d'énergie à partir de données de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. D'après celle-ci, même en incluant le nombre de décès liés à la catastrophe de Fukushima, le nucléaire ne causerait pas plus de 0,04 morts par terawattheure produit, c'est-à-dire 3,75 fois moins que l'éolien, 35 fois moins que l'hydraulique et 100 fois moins que le gaz naturel, 600 fois moins que la biomasse, 900 fois moins que le pétrole, 2500 fois moins que le charbon, etc.
Et c'est tout?
C'est-à-dire que quand on parle de sûreté, le nombre de morts causées par le nucléaire serait de 0,04 morts par terawattheure produit, contre 2005. Alors,
ce qui ne veut rien dire, en fait. C'est beaucoup de charabia pour pas grand-chose. Est-ce qu'il est à noter...
Pourquoi ça veut rien dire?
Attendez, je n'ai pas fini. Ah ouais. Est-ce qu'il est à noter le fait que les travailleurs du nucléaire, qui sont au Niger ou ailleurs, soient dans des conditions déplorables? Est-ce que ces morts en font partie?
En l'occurrence, ça a été établi par l'Organisation Mondiale de la Santé, donc oui, je suppose que leurs données sont fiables.
L'Organisation Mondiale de la Santé disait combien de morts sur Fukushima, Bernard, si tu te souviens?
Je crois que c'était une dizaine de morts.
Voilà, donc...
Ce qu'on peut dire quand même, c'est que... On ne peut pas faire confiance à ces chiffres. Depuis 1958, où l'OMS a passé un pacte avec l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour ne pas défavoriser le nucléaire. Et donc, comment
ça
on peut
vous
faire
a asséné ça comme quelque chose...
Ah non, mais c'est écrit, il y a des textes. Hein.
Ah, d'accord.
Vous pouvez le vérifier sur Internet, il n'y a
aucun
souci. Vous
le vérifiez, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on n'accorde aucune fiabilité à ces chiffres de l'OMS, à cause de ce pacte qui a été scellé il y a plus de 60 ans. Donc, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le souci au niveau du nucléaire, quand vous avez une personne irradiée ou contaminée par des particules radioactives, elle ne va pas forcément mourir tout de suite. Vous aurez bien du mal à prouver qu'un cancer est dû à une émission radioactive. Donc, il est archi difficile d'établir des chiffres précis donc sur les conséquences du nucléaire. Et pourtant, elles sont là. Il y a des études épidémiologiques, par exemple, qui ont été faites autour de l'usine de La Hague, en France, hein, qui montrent qu'il y a des taux de cancer donc plus élevés là-bas que dans toutes les régions de France. Donc, et pourquoi ces études sont-elles cachées, hein? C'est dans ce sens-là où on réagit, on dit que la population française n'est pas bien informée, hein? Et je pense qu'on la maintient désinformée par rapport aux conséquences donc, des contaminations nucléaires notamment.
Et vous pensez que c'est le lobby du nucléaire qui maintient désinformée la population française ?
Bien sûr. Quand nous, on pose des questions, donc moi je fais partie de la commission locale d'information de la centrale de Chinon, on pose des questions quand sont effectués les rejets radioactifs, puisqu'il y a continuellement des rejets radioactifs, même en fonctionnement normal d'une centrale dans la Loire, ou dans les fleuves, ou dans la mer, eh bien, on n'a jamais de réponse. Jamais. On ne veut pas nous dire quand sont faits les rejets. Alors, pourquoi ? C'est quand même assez curieux.
Pour continuer ce débat, j'invite les auditeurs et auditrices de Radio Campus Angers à venir demain, 20h, au centre Jean Carmet à Muret-Rignier pour la projection du film « Été nucléaire » réalisé par Gaël Lépingle. Merci beaucoup Bernard Cottier et Alain Guillotot d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers.
Merci à vous.
C'était partiel, mais merci à vous.
Et 25 minutes, très court, très court. 22 minutes, sur un vaste sujet. C'est pour ça que le débat continue. Tout de suite, petite pause musicale sur les ondes du Centre FM. Thank you. 18h25 sur Radio Campus Angers. Vous venez d'écouter Oriane Lacaille avec son titre Aude au doute. Salut Isabelle.
Bonjour Hugo.
Ravi de t'accueillir pour ta première chronique dans le pédalo.
Ouais, je suis très impressionnée. Ouais.
Ah oui, très impressionnée. Tu vas nous parler de cinéma.
Bien sûr.
Évidemment, grande passionnée de cinéma.
Oui, j'y passe beaucoup de temps.
Beaucoup de temps, tous les mercredis.
Tous les mercredis et puis même parfois d'autres, à d'autres moments. Et puis le festival Premier Plan aussi, qui
évidemment
est vraiment notre festival phare.
C'était la rentrée là, et donc évidemment qui dit rentrée dit coup de cœur, et peut-être que tu vas commencer par ça.
Oui, le coup de cœur de la rentrée, c'était pas possible de pas en parler, même s'il est sorti il y a une semaine, c'est « Tout le monde aime Jeanne ». Alors oui, moi je confirme, j'adore Jeanne, j'aime Jeanne. Surtout quand elle est incarnée par l'humoriste Blanche Gardin, et là je suis vraiment fan de cette humoriste. Alors, c'est vrai qu'une fois de plus, elle joue le rôle d'une quadra dépressive.
C'est vrai qu'elle elle a toujours ce rôle-là.
Ouais, mais elle le fait tellement bien, avec humour et autodérision, que moi, je ne m'en lasse pas, on ne s'en lasse pas.
De quoi il parle, ce film ?
Eh bien, en fait, Jeanne, elle se retrouve complètement surendettée et elle est obligée de se rendre à Lisbonne pour vendre l'appartement de sa mère, qui est décédée. Et c'est important pour elle parce que c'est aussi une part de son enfance, c'est là qu'elle a grandi. Et non, elle ne va pas retrouver des souvenirs heureux, mais plutôt la culpabilité et les regrets vont lui sauter à la gorge quand elle va pousser la porte de l'appartement. Mais heureusement, la légèreté, elle va venir d'un ancien camarade de lycée qui est retrouvé par hasard et qui s'appelle Jean. C'est Laurent Lafitte qui est absolument formidable dans ce film et qui va la sortir de son spleen et l'entraîner dans la valse de sa fantaisie du quotidien, parce qu'il a beaucoup de fantaisie. Alors le film, il est drôle, il est triste aussi, émouvant, décalé, social, hein, puisqu'on parle aussi de tous les problèmes de logement à Lisbonne. Et on aime aussi le côté foutraque de ce film, de l'histoire, les dessins animés, de la petite voix intérieure de Jeanne, qui intervient régulièrement. Et d'ailleurs, on peut dire félicitations à Céline Devaux, c'est son premier film. Et elle sait tout faire, réaliser, dialoguer, dessiner, enfin bref. Donc, avoir absolument ce coup de cœur. Hein.
Au-delà de ce film, t'en as vu d'autres ? Non, t'en as pas vu d'autres. Mais en tout cas, t'as des recommandations à nous faire sur les sorties de la semaine.
Oui, la sortie de la semaine, on en a beaucoup parlé sur les ondes. Hein. C'est Chronique d'une liaison passagère, c'est au 400 coups aussi. Et c'est un film d'Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlin et Vincent Macaigne. Alors, Sandrine Kiberlin, c'est Charlotte qui cherche, elle, une relation sans attache. Et Simon est joué par Vincent Macaigne. Et Simon, il est très marié.
Très marié.
Très marié.
On peut être un peu marié.
Oui, mais lui, il est très marié.
Ah oui, vraiment très marié.
Et donc, on suit la chronique de leur aventure amoureuse sur plusieurs mois. Ils passent du bon temps ensemble, tout en se répétant qu'ils ne sont pas amoureux. Ils se le répètent vraiment beaucoup, c'est bizarre. Et il va y avoir une troisième personne qui va chambouler un peu cette complicité. Sandrine Kiberlin, dans ce film, elle fait vraiment penser à Diane Keaton dans Manhattan. Hein. Je ne sais pas si tu vois le film de Woody Allen, qui avait beaucoup, beaucoup de charme. Elle a beaucoup de fantaisie, Sandrine Kiberlin, et d'ailleurs, elle aime beaucoup Diane Keaton, donc elle dit qu'elle s'en est inspirée. Et puis, il y a Vincent Macaigne. Alors, lui aussi, il est toujours un peu dans le rôle de l'amoureux maladroit. Et ça, c'est un rôle très cher à Emmanuel Mouret. Avant, Emmanuel Mouret, il jouait ce rôle-là. Mais maintenant, il a décidé de passer derrière la caméra. Et je vais te dire, c'est peut-être pas plus mal. Vincent Macaigne est bien meilleur que lui. Et Emmanuel Mouret, c'est vraiment le cinéaste du marivaudage et du discours amoureux. Et on peut dire que c'est vraiment le digne aussi héritier d'Éric Rohmer. Ces dialogues sont pleins d'humour et sont vraiment jubilatoires. Il y a une très belle photo aussi.
Évidemment, tu vas nous parler de la disparition de Jean-Luc Godard.
Oui, alors j'aurais pu vous le chanter, mais non, ce n'est pas prévu de chanter parce qu'il a toujours été très sensible à la musique dans ses films. Alors Jean-Luc Godard, ce n'est pas la reine d'Angleterre, mais...
Ah bon ?
Mais quand même, dans le monde du cinéma, il a eu donc des nombreux hommages depuis deux jours. Et il a quand même une filmographie qui a traversé plus d'un demi-siècle. Alors pas 70 ans comme la reine d'Angleterre, mais sans doute 60. Et c'est vraiment un cinéaste qui a fait bouger les lignes. C'est une voix libre et libertaire qui est vraiment venue d'ailleurs. Et bien sûr, on ne peut pas parler de toute sa filmographie, hein, donc c'est à voir ou à revoir. Alors, en sachant que, attention, hein, certains de ses films sont très hermétiques. C'est aussi du cinéma expérimental, hein, Jean-Luc Godard.
Oui, il fait beaucoup d'essais avec le montage, l'image, le son.
Oui, exactement. Donc parfois, il faut s'accrocher un peu. Mais il y a tas de choses tellement intéressantes.
Il y a encore des films qu'il a encore temps. Il y a des films qu'il a encore temps d'aller voir et que tu nous recommandes d'aller voir en courant parce qu'ils vont bientôt ne plus être à l'affiche.
Ah ouais, courez-y aux 400 coups. La nuit du 12, c'est un film de Dominique Moll avec Bully Lanors en flic fatigué. C'est un rôle aussi qu'il aime bien jouer, pas le flic, mais le côté fatigué. C'est un thriller psychologique sur une enquête qui n'a jamais abouti. Donc dès le début, on sait qu'on trouvera pas. Qui est l'assassin, et on sait malheureusement qu'une femme a été brûlée vive en rentrant chez elle la nuit. Mais ce qui est vraiment intéressant et jamais traité à mon avis, au cinéma, c'est que cette enquête elle est vraiment l'occasion de dire comment les hommes, qu'ils soient flics ou voyous, réagissent face à un féminicide. Donc c'est passionnant. À voir, vite.
Et en plus, ça n'a pas été souvent traité au cinéma.
Pas du tout. Enfin, à mon avis, pas vraiment, non.
Merci beaucoup, Isabelle, pour cette première chronique, une sorte de recommandation, d'agenda cinématographique de ce qui se passe aux 400 coups. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Ah oui, merci beaucoup.
Merci.
C'est déjà la fin de ce pédalo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Carla, à la technique, et à Étienne, à la programmation musicale. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine à bord de notre embarcation favorite. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.